Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Ne dit-on pas que quoi qu'il se passe, la vie réunit ceux qui s'aiment. Vous pouvez tout tenter, tout espérer, essayer de faire des deuils, refaire votre vie, si celui que vous aimez vous aime. La vie vous réunira. Entre les errances de la nuit parisienne et la trahison, Sandra a cru tout perdre. C'est sans compter sur son intelligence, sa force de vie et surtout la force de l'amour extraordinaire de Tomer pour elle. Un amour qui, certes, peut se mettre en veille un temps, mais qui ne peut pas disparaître.
J'ai 22 ans. Je viens d'arriver à Paris. Je suis une bonne petite provinciale. Moi, j'ai fait des études de droit à Saint-Étienne. Et quand je suis partie faire mes études à Londres en quatrième année, j'ai découvert le milieu de la nuit. J'ai du vestiaire au Ministry of Sound, qui est la boîte qui cartonne. J'hallucine sur les looks, je deviens ouf. Et quand je reviens à Paris, je me dis, bon, le droit, c'est pas pour moi. Je vais travailler ou dans le journalisme ou dans la com. Et donc, je décide de passer des concours d'école de journaliste. Et pour me payer ça, je dois trouver un taf. Et je trouve un travail au Bain-Douche avec Cathy Guetta, qui devient ma patronne et quelqu'un qui m'apprend, en fait, pas seulement à travailler la nuit et à être serveuse, parce que c'est relativement simple, elle m'apprend à gérer les gens et à gérer une foule et à savoir comment faire en sorte qu'une soirée prend ou qu'une soirée ne prend pas. Et il se trouve que je me révèle être assez forte dans cet exercice, non pas pour porter les assiettes, parce que je suis une bonne catastrophe, mais plutôt pour communiquer, aller vers les autres, parce que j'étais fascinée par cet endroit. Parce que moi, j'arrivais de Provence, et à cette époque-là, les Bain-Douche, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que vous arrivez, vous voyez un type au bar accoudé, le cheveu à peine propre, vous vous dites, bon, c'est qui ce cloche Ben? Bon, bah, c'est Mick Jagger. C'est que des trucs comme ça, la clientèle était complètement dingue, et il y avait en plus une légèreté et une facilité à faire la fête qui était folle, due au fait que les portables n'existaient pas. Vous n'aviez pas un paparazzi potentiel assis à côté de vous à chaque table. On est en 2000. Cathy Guetta fait un deal avec une boîte à Cannes qui s'appelait le Janes. Et Canal+, qui était les tauliers du festival de Cannes à l'époque, avait lancé ce principe qu'après pas mal de gens ont repris, de boîte de nuit gratuite. Dans cette boîte de nuit ne se trouvaient que des acteurs ou des gens très importants du milieu du cinéma. Et pendant 15 jours, elle était éphémèrement appelée la boîte Canal. Et elle me dit, Sandra, vous travaillez super, on se vous voit avec Cathy. Elle me dit, Sandra, vous travaillez super bien, est-ce que ça vous branche d'aller au Festival de Cannes, de travailler, de servir. Donc, évidemment, vous doutez bien que moi, j'étais au maquillage. Je fais, non, oui. Et donc, je pars là-bas. Je pars à Cannes avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'excitation. J'arrive dans cette boîte dingue où je sers Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Sean Penn, enfin bon, ça continue quoi. Bon, les gens étaient tous à peu près beaux, tous habillés, parce qu'à l'époque, ils s'habillaient vraiment pour sortir, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Les gens sont beaux et tout ça. Moi, j'ai encore mon petit côté Provence. Je fais encore un peu des petits fashion faux pas. Mais bon, ça se voit pas trop parce que je compense par un sourire ou un truc comme ça. Mais quoi, j'ai pas encore tous les codes. Mais bon, ça passe. Et dans l'entrée de la boîte de nuit, parce que je regardais tout, j'avais le rang VIP du truc qui était pas loin de la porte. Je vois rentrer un gars. En fait, je vois rentrer une masse de cheveux. Une espèce de truc, ouais, une touffe géante. Donc, qui dénotait complètement avec les brushings parfaits que les gens arboraient. Et je me dis, mais c'est qui celui-là? Et en m'approchant, je vois que bon, c'est non seulement une touffe, mais que c'est aussi une bebon. Et je me dis, j'ai cette espèce d'instinct primaire en moi qui naît. Et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'il est beau. Mais je savais absolument pas qui c'était. Hein. J'avais pas du tout sa fiche. Lui, il est là, il est dans l'entrée, il a l'air un peu gauche. Il sait pas trop où s'asseoir. Moi, comme moi, j'ai plutôt du culot. Je m'approche de lui, je lui dis, salut, comment tu t'appelles? Il me dit Tomer. Je lui dis, non, mais vas-y, pour de vrai, tu t'appelles comment? Il me regarde, il me dit, bah, Tomer. Je dis, bon, ok, d'accord. Je dis, bah, moi, je m'appelle Sandra. Et je lui dis, bah, t'es au courant? Il me dit quoi? Je lui dis, bah, qu'on va rentrer ensemble. Donc, je lui rentre dedans. Il m'a regardé, il était assez timide et tout. Il me dit, non, je suis pas au courant, mais je suis pas contre le projet. Je vais écouter très bien. Donc, j'ai terminé mon service. Il m'a attendu. Et il avait une grosse moto. Je me souviens, c'était la moto de son père. Là, il est 4 heures du mat, quoi. Donc bon, je suis un peu défraîchie, un peu fatiguée, mais bon, je suis très motivée. Il m'accompagne à mon hôtel, parce qu'on était tous logés dans un hôtel. Je lui demande de m'attendre. Est-ce que tu peux attendre dans le hall? Donc je me fais une douche, j'étais moyennement épilée, je me fais les aisselles. Bah, tout le monde connaît ce jour où tu rencontres une bebon et tu n'es jamais prête. Donc je fais le nécessaire. Il m'attend une bonne vingtaine de minutes. Et puis, je vais le chercher. Je lui dis, tu peux monter. Donc, il monte. Il se passe ce qui doit se passer. Trop bien. Vraiment trop bien. On dort ensemble. Et en fait, pendant tout le festival, on va avoir une love story géniale. Donc, il va me dire qu'il est acteur. Il va me parler de sa série que je connais pas, que j'ai jamais regardée. C'est pas juste une bebon physique. Je suis amoureuse de la personne, c'est-à-dire de sa gentillesse, de sa douceur. Il est drôle, il est prévenant, il me regarde comme si j'étais Mona Lisa. Il est extraordinaire. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment folle de lui. Et on rentre à Paris et on décide de continuer cette histoire parce que lui comme moi, on est amoureux et moi je continue mon travail au bain et lui à cette époque il essaye d'être comédien de travailler dans le cinéma ou dans d'autres choses que sa série télé, donc il a un peu ce truc du comédien un peu torturé qui reste beaucoup chez lui, qui étudie beaucoup les scénarios qu'on lui envoie. C'est son père qui lui paye son appart, mais bon, il lui envoie 1000 francs, c'était des francs à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, 1000 francs par mois pour vivre, donc il peut pas trop sortir. Mais on vit ensemble, moi j'ai un appart rue aux Ours, à cette époque là on vit en coloc, bon ben c'est Coachella, et lui il a un appart rue du Faubourg pour Saint-Denis, et où, en fait, c'est un appart comme un appart d'étudiant. C'est pas du tout une amourette, on est vraiment tous les deux très, très, très amoureux. À l'époque même, il me demande en mariage. Ouais, non, le mec est courageux. Donc moi, je suis complètement secouée par la nouvelle, ça me déstabilise un peu parce que j'y avais jamais pensé. Il me demande en mariage, on a des plans, quoi. La vie fait que, en fait, moi, je commence à vraiment beaucoup, beaucoup bosser au bain, à prendre des responsabilités. de serveuse, je passe à responsable d'événementiel, et puis très vite, je deviens le bras droit de Cathy, qui monte le Pink Paradise, qui monte le Tangia. Donc je suis vraiment dans mon taf, et puis je suis dans un espèce de bulle dingue de... d'agitation, de rencontres, je rencontre la terre entière. Socialement, c'est extrêmement enrichissant, et puis c'est des gens de tous horizons. Ça va de John Galliano à Albert Elbaz, on croise en Prince, donc c'est complètement fou. Puis tous les jeunes acteurs qui débutent, les Jamel Debbouze, tous les gens qu'on voit aujourd'hui qui sont des gens successful, c'était des gens que je côtoyais en tout cas le soir. Après, j'avais un travail en plus la journée au bureau, donc c'était génial. Et donc, à ce moment-là, on est un peu, lui et moi, dans deux dynamiques, on va dire, de vie différentes. C'est-à-dire que moi, je travaille la nuit, on est très, très, très amoureux, donc il m'attend toute la nuit. Il vient me chercher de temps en temps au bain, et c'est un sentiment pas très agréable, en fait. Pour moi, d'abord, parce que je suis déchirée dans mes sentiments, c'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a l'homme que t'aimes qui t'attend dehors, ça fausse un peu les choses. Donc d'un côté, j'ai envie de vite terminer, et d'un autre, ça me fout une pression dans l'exécution de mon taf. Et lui, je pense que c'était désagréable parce que simplement, il attendait, qu'il était venu une ou deux fois me chercher à l'intérieur. Et je pense que quand on est très amoureux, c'est jamais agréable de voir que sa meuf est populaire, que dans ces endroits-là, vous vous attrapez par la taille, vous vous faites la bise. Lui, ce qu'il voit, c'est un espèce de spectacle de tout le monde se connaît, tout le monde s'embrasse, tout le monde fait la teuf. Tomer, il vient du sud, son père, il est ingénieur en dermatologie, sa mère, il la connaît pas, et je pense que c'est mieux comme ça. Tomer n'a aucun réseau, donc il a cette urgence vitale, il faut qu'il devienne comédien, et ça le plombe un peu, parce qu'il a, c'est quelqu'un de extrêmement intelligent et lucide, et il sait que ça peut ne pas arriver. Donc en gros, tout ce qu'il fait, c'est pour essayer d'arriver à être comédien. Moi, je le retrouve tous les soirs un peu chez lui, en train de geeker sur les jeux vidéo, avec des paquets de fingers par terre. Il voulait jamais sortir parce que le pauvre, il avait pas de sous. Moi, je commence à gagner énormément d'argent au bain, donc comme je suis un panier percé, j'ai envie de tout dépenser. Donc j'ai envie de l'inviter au resto, mais il veut pas parce qu'il se sent émasculé, etc. Ce que je peux complètement comprendre. Mais il commence à se creuser à un gap. L'évolution des vies diffère, et je sais pas, un jour on s'engueule, je pars bosser, et badaboum. Je le trompe. Je le trompe parce que le mec avec qui je vais le tromper est à l'opposé de Tomer. Il est il est vieux, il se la pète, il est ultra charismatique, plein de certitudes alors qu'il devrait pas en avoir. Et alors, faut savoir que moi, je suis la pire menteuse du monde, c'est-à-dire que je suis l'équivalent de Sarah Bernard. Je rentre et il est tard, je vais prendre une douche. Et il me dit « ça va ?» Donc on est d'accord que la question est complètement anodine. Moi, en pleine culpa, alors qu'il m'a simplement demandé si j'allais, je dis « oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ? Non mais attends, mais qu'est-ce que tu sous-entends ?» Bon, Sarah Bernard, voilà, la meuf est hors sujet, ta gueule, alors que j'aurais simplement pu dire « oui, tout va bien, je pars dans un grand numéro de tragédienne grecque, mais qu'est-ce que tu sous-entends ?» Et il me regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je sais pas, pourquoi tu me demandes si ça va? Mais il me dit, parce que, par politesse. Bon. Bref, donc, du coup, il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Il me cuisine. Il me fait le fameux, je te promets que si tu me dis la vérité, je t'en voudrais pas. Bon, alors, à tous les gens qui nous écoutent, il faut que vous sachiez que ça, c'est un piège. Ça ne marche pas. Et quand vous tombez dedans, voilà, à chaque fois, ils vous en veulent. Donc, il me fait le fameux « Non, mais dis-moi si c'est passé quelque chose. Je te promets, je dirai rien. » Donc là, je fais « Bah oui, mais j'ai fait une connerie, mais rien de grave. C'est juste, je sais pas, je m'embêtais. » Enfin, ok, d'accord, tu prends tes valises, tu te barres. Donc, cœur brisé. Quand je te dis cœur brisé, c'est les deux, on est super mal. Il me vire de chez lui. Moi, je suis au bout de ma vie, hein, parce que je me rends compte de mes deux conneries. La première, de m'être tapé un mec, et la deuxième, de l'avoir avoué. On est bien d'accord que là, j'ai fait un doublé gagnant. Et surtout, je prends conscience que je me sépare de l'amour de ma vie, en fait. Les jours passent, j'ai pas de nouvelles. Bon, moi, je suis en PLS, hein, j'ai envie de mourir. Il m'appelle pas, je lui envoie un SMS, je lui dis je sais plus la vie sans toi, en fait, je sais plus comment c'est. Et il me répond bon, on peut peut-être se voir. Et à l'époque, en fait, je me mets avec le gars avec qui je l'ai trompé en mode pansement. C'est-à-dire que j'ai une amourette avec ce gars-là qui me permet de traverser cette période horrible pour moi. Et il me dit, et qui est donc au courant de mon histoire avec Tomer et qui donc le déteste. Et donc on décide d'un rendez-vous. J'ai le cœur qui bat à mille à l'heure, une demi-heure avant ce fameux rendez-vous. Et au moment de partir, la personne avec qui je vis à ce moment-là, le fameux, arrive chez moi, bouquet de fleurs, petit repas, et me dit « je t'ai fait une surprise, ce soir on dîne tous les deux ». Et donc c'est impossible pour moi de planter, enfin, j'ai pas d'excuse à lui donner puisque je peux pas lui expliquer que je vais retrouver l'amour de ma vie et que lui, ça n'est pas lui. Donc je me retrouve un peu truc de merde, donc j'envoie des messages en disant « j'essaye de faire en sorte que ça dure pas le repas ». Il le prend mal et je le comprends. Il me fait « Ok, pas de problème, salut ». Il me dit ça en me disant bah, « fais ton dîner de merde et salut, ça doit pas être si important pour toi ». Je fais le deuil de mon histoire, mais il est dans mon cœur, toujours. De ce jour, j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai essayé d'en donner. Et puis moi, j'ai commencé à essayer de reconstruire ma vie. Donc j'essaye de me persuader que c'est mieux comme ça, vous savez tous ces trucs à la con, c'est pas grave, c'est pas lui, c'était pas lui, puis je suis pas mal avec celui-là, et puis blablabli, blablabla, mais ma relation donc va durer avec cette personne, et Tomer va exploser professionnellement, et ce qui est dur, c'est pas qu'il explose, loin de là, c'était mon grand bonheur, c'est que c'était compliqué de l'éviter. C'est-à-dire que je voyais des affiches de Largo Winch de partout. Je sais que c'est l'amour de ma vie. Ça, je le sais. Mais je suis bien avec la personne avec qui je suis parce qu'on fait plein de trucs et qu'on grandit professionnellement tous les deux et qu'on va bien se marrer. Mais au fond de moi, c'est marrant de reparler de tout ça parce que ça me rend sensible. Moi, je fais ma vie, je commence à avoir une boîte de prod, on rigolait bien et tout, mais Tomer était toujours là. Alors, Tomer, c'est pas un sorteur, c'est pas un mec qui aime sortir. Ouais, alors, on va bien préciser que c'est l'opposé de moi, hein, donc qui suis toujours dehors. D'ailleurs, vous pouvez entendre à ma voix, qui n'est pas là par hasard, que j'ai énormément bamboché et que c'est loin d'être terminé. Donc voilà, on est vraiment complètement opposés. Mon ex-mari et moi, on sort tout le temps. Et Tomer, il est jamais dehors. Je l'ai recroisé une fois à une partie de poker. Et en fait, quand je le vois, je perds complètement mes moyens, en fait. Mon mec, à l'époque, sait que Tomer a été mon mec et que c'est donc mon ex. Et quand il le voit, il me dit « Je te préviens, je t'interdis de lui parler, je t'interdis de lui dire bonjour, etc. » Donc en gros, Tomer et moi, on se voit et je baisse la tête et je pars. C'est-à-dire que je me souviens très bien que j'ai les larmes aux yeux. Des concours comme ça de poker, les places sont tirées au sort. Bon, ben, guess what, on est dos à dos. Descente d'organes. Au secours. Donc j'ai envie de mourir. je vais un espèce de truc horrible où j'ai envie de lui dire que je l'aime, que pardon, que tout ça. Bref, c'est vraiment une soirée de merde. Comment dire, je travaille plus au banc, donc j'ai ma boîte de prod, je fais des clips, je cartonne, et puis je commence à me prendre un peu les pieds dans le tapis, parce que j'étais avec une personne faute de mieux, et je suis arrivée à me persuader que c'était bien pendant 6-7 ans, et puis là je commence à être un peu, je me sens pas à ma place quoi en fait, je me sens moins heureuse, j'ai envie d'enfant, j'ai moins envie de sortir. J'ai ce truc d'horloge biologique qu'on connaît toutes, puisque nous avons une date de péremption. Je me sens de moins en moins bien, bref. Et je commence à faire un peu des conneries. Voilà, je tombe un peu dans des trucs dans lesquels il faut pas tomber. Quelques excès que je vais payer cher. Mon couple commence à aller de plus en plus mal. J'arrête de sortir, je me sens plus à ma place. Lui continue de sortir, on s'engueule énormément. Non, je suis plus heureuse, je suis dans une espèce de prison dorée. J'aime pas trop ce que je vois quand je me regarde. Donc mon ex-mari voit que ça va pas, donc il me dit bon... Je t'avais dit que j'en voulais pas, parce que lui, il a 3 enfants. Il me dit, voilà, il faut absolument qu'il y ait un témoin de notre amour, parce qu'on s'est quand même aimé, tu vois, pendant longtemps. Il me dit, je suis OK pour te faire un enfant. Donc, j'ai eu cet enfant qui s'appelle Dino, qui est l'amour de ma vie. Et parce que quand je le regarde, je me dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. C'est un séisme dans ma vie, évidemment, que j'ai plus envie de sortir et tout ça, mais je me retrouve très très seule à la maison. Je suis pleine de doutes, je sais pas si je vais savoir faire, donc j'appelle ma maman, etc. Et le fossé avec mon ex-mari se creuse de plus en plus, et puis on commence à s'engueuler comme des malades. Et moi, je sombre petit à petit, à cause de cette solitude, de ce mal-être, dans une substance qui va ruiner ma vie, en fait. Donc, je commence à être un peu tox. Je suis toute seule chez moi. Il y a ma mère qui vit chez moi, qui m'aide à m'occuper de mon fils. Puis, je me dis... Je me rends pas compte, en fait, au départ, que je suis dedans. J'ai ce truc de « ça va, c'est festif, j'arrête quand je veux ». Bon, bah, pas du tout, hein. C'est pas du tout le cas. Tout ça en parallèle avec un couple qui va très très mal, un enfant en bas âge. Bon, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Très vite, je découvre, bon, évidemment, qu'il a une maîtresse, qu'évidemment, cette maîtresse, je la connais, qu'évidemment, enfin, le classique que je pense qu'on a malheureusement toutes vécues. Donc, je divorce et je divorce dans un état de santé mentale et de santé tout court assez préoccupant. Je perds mon taf, moi je perds mon mari à cet âge-là, j'ai 40 ans. Donc, c'est un âge où on a plus envie de se poser, de se dire que les 30 années qui arrivent vont être agréables et non pas que tu as à tout recommencer. Et puis, je perds ma boîte parce que comme je suis à moitié tox, je fais de la merde. C'est la chute, en fait. Je me retrouve dans un tout petit appart bourré de souris avec mon fils qui a 4 ans. Je suis plantée à une substance de merde. J'arrive pas à m'en sortir. Et je comprends très vite qu'il va falloir que je me soigne, en fait. Parce que le problème de la coke, en fait, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que c'est une drogue à laquelle vous êtes addict mentalement. Vous n'avez pas de manque physique, ce qui n'est pas le cas de l'héroïne ou même des joints, un truc comme ça. C'est vraiment une drogue mentale. Et donc, il y a des endroits, des gens qui vous donnent envie de faire ça et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc, très vite, je me dis, il faut que je me soigne. Donc, je pars pendant 4 mois me soigner. Enfin, je pense que je rentre pour 15 jours. Hein. J'arrive avec une petite valise, deux robes Galliano. Donc, je me baladais dans la cour, habillée en couture. Je refusais de mettre la blouse. Je vais là-bas, ça s'appelle Montevideo. C'est à Boulogne et je tombe sur un addictologue qui est extraordinaire, qui s'appelle William Lowenstein. Et il va s'occuper de moi, il va me soigner. Pendant ce temps, c'est ma maman qui garde Dino. Moi, je savais que j'étais en train de passer à côté de ma vie, que j'arriverais pas à m'occuper de mon fils seul. Et j'en sors guérie de l'âme et du corps. Ça a été extrêmement dur. J'ai pas un rond, mais je suis soignée. Parce qu'il se trouve que, bon, comme souvent, les pensions sont pas payées, j'ai aucune aide que j'aurais dû avoir. C'est ma maman qui m'a sauvée, qui m'a aidée à rester en vie. C'est elle qui emménage à Paris définitivement avec nous. Elle laisse son cabinet d'huissier et tout. Elle vient vivre avec nous. C'est elle qui paye mon loyer. C'est elle qui paye tout. Je lui dois énormément et je l'aime énormément. C'est ma maman, quoi. Donc, il faut que je rebosse. Il faut que je retrouve une activité. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et puis, je me dis, bon, faut que je gagne de l'argent vite. Eh bien, ben je vais faire des soirées, en fait. Je vais organiser des soirées, je vais animer des lieux, etc. Je vais faire ce que Cathy m'a appris. Donc, je repars avec mon petit bâton de pèlerin à 40 ans. C'est compliqué parce que quand vous avez eu un petit statut social, que vous êtes un peu quelqu'un, tout à coup, ben votre téléphone ne sonne pas puisque vous n'êtes plus la femme d'eux. Il y a quelques amis qui étaient là pour moi, vraiment là. Hortense, Sarah, voilà, des gens qui m'ont pas lâché et pourtant j'étais vraiment chiante. Mais bon, sinon je suis seule et c'est ma mère qui paye en fait, c'est ma mère qui m'aide. Et il y a un monsieur qui s'appelle Murat Atik que je rencontre au Coste, je lui dis voilà, je cherche du taf, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire les RP, les machins. Et là une boîte de nuit qui est un club de striptease. J'adore les clubs de striptease, hein. Je suis cliente, je trouve ça génial, mais faut bien s'imaginer que moi, j'avais une boîte de production de 14 personnes, je produisais des clips, et l'idée de me retrouver la nuit, à 40 ans, dans un club de striptease, avec ben voilà des mecs qui sont là pour voir des culs, et puis une ambiance assez surannée, assez bon... assez sexe en fait, c'était super dur. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me persuade que c'était bien. Donc je commence ce taf, je suis directrice de la communication, mais en gros je dois y être le soir. Je suis assise aux tables avec les clients qui m'appellent en claquant des doigts. C'est hyper dur, je rentre souvent... pas Murat, hein. Murat il a été génial. C'est moi en fait, c'est l'image que j'avais de moi. C'est un peu dégradant. Mais attention, mes patrons étaient géniaux. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je suis en période de reconstruction. J'ai peu d'énergie. Je retravaille la nuit, donc j'ai des tentations, etc. Mais évidemment, je n'y cède pas. Je sais que ça coûte trop cher. Je me dis, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et tous les jours, je me répète, ne te venge pas, sois heureuse, c'est pire. Tout le monde me dit, mais t'as pas envie de te venger de ton ex-mari, ce qu'il t'a fait, il est parti avec machine, cette machine que je connaissais très très bien puisqu'elle travaillait pour moi. Et je disais, non, j'ai pas envie de me venger, j'ai pas la force en fait, j'ai juste de la force pour amener à manger à mon enfant en fait. J'ai pas envie de... Si ma mère avait pas été là, je pense que j'aurais été en foyer de mère seule. Ouais, j'avais rien. Et tous les jours, je me répétais ça. Donc, j'ai pas eu ce sentiment d'aigreur, de volonté de se venger. Je voulais y arriver, je voulais m'en sortir, je voulais revoir le soleil. Il y a un pote qui me dit, que je rencontre d'ailleurs au PIC, qui me dit, mais Sandra, si tu veux qu'on connaisse ta boîte, ma boîte s'appelait Sandra & Co, tu devrais aller à Cannes, parce qu'à Cannes, il y a tout le monde, tu connais très bien, tu y as bossé il y a 20 ans. Parce que là, on est 16 ans après le premier Cannes où j'ai rencontré Thomas. Ce pote me dit, mais viens, on va à Cannes, on fait un truc. Je lui dis, bon, écoute, on va réfléchir, t'as raison, c'est pas con. J'ai l'idée de monter, non, l'idée est géniale, la suite Sandra & Co. Mais alors, faut que je vous explique ce que c'est que la suite Sandra & Co, parce que c'est très drôle. Il y a l'image, et puis il y a le backstage. J'ai pas un rond. Mon concept, c'est de faire une suite ultra privée dans laquelle je reçois des gens. Ils peuvent rentrer avec la carte de l'hôtel. On fait des teufs géantes et j'ai un partenaire alcool et ça s'appelle la suite Sandra & Co. Il faut savoir que quand je loue la chambre d'hôtel, je leur explique que de temps en temps, j'organise quelques soirées. Mais pour eux, ils louent à une particulière. Ils n'ont aucune idée du bordel que je vais leur foutre. Ils sont pas au courant. Et j'ai un partenaire qui va me permettre en fait de réaliser ce projet. C'est Philippe Souche, qui à l'époque travaille chez Pernod Ricard, donc Perrier Jouet. Et je lui dis, voilà Philippe, j'ai un concept, il faut que tu me loues une chambre, une grande suite, que tu me donnes du champagne et je fais le reste. Je lui dis, écoute, la chambre dans laquelle on va faire la teuf, ça sera la mienne, mais on va pas le dire. Donc imaginez-vous bien que moi je raconte aux gens que je les reçois dans un lieu entre guillemets événementiel et que quand je ferme la porte à 5h du mat, je me couche sur le canapé dégueulasse où tout le monde a mis ses clopes, ses pieds et je suis réveillée par les meufs du ménage à 7h, donc je dors très peu. Donc le projet se fait, on part à Cannes, je suis dans cet hôtel. Et la première soirée, en fait, j'ai tous mes potes de Canal+, qui viennent. Renaud Levent-Kim, Guillaume Lacroix, Fred Becbédé, qui trouvent le truc génial, qui se disent « Putain, un appart, une suite, dans un hôtel, mais c'est génial, mais tu dors où ?» Je dis « Ouais, je dors derrière la gare, t'inquiète, mon cul. » Il y a une espèce de bouche à oreille de ouf, parce qu'à Cannes, on adore les endroits où il est impossible de rentrer et les endroits secrets. Et mon étoile fait que le deuxième soir, il y a une meuf qui vient, une ricaine, qui me dit « Bonjour, je suis l'agent d'un comédien très connu. » « Oui, bonjour. Est-ce que, bon, il est dans l'hôtel, il paraît que de temps en temps vous faites des soirées, est-ce qu'il pourrait venir ?» Je dis « Ok, mais je vous préviens, c'est très privé. » Bon, attends, faut quand même que je t'explique que les serveuses, c'est mes copines, que quand il y a trop de clients, j'en fous une au bar. On est dans le mytho total. Mais c'est hyper cool. C'est hyper cool, il y a plein de gens connus, mais c'est pas du tout organisé. C'est on est des potes et on se dit ouais, on est le nouvel endroit hyper hype de Cannes. C'est complètement fou. Et donc je lui dis bah qui vienne votre acteur. Elle me dit pas son nom. Je lui dis mais dites-moi qui c'est. Elle me dit je peux pas vous le dire parce que sinon you're a trop de journaliste. Je suis banqué. Bon ben le deuxième soir, j'ouvre la porte. Qui est avec l'agent? Robert Pattinson. Donc, comment vous dire que je pète un câble? Je fais hi, hello! Alors que nous, on n'était pas du tout prêts. Bah, canon, c'est le géant vert. Enfin, bon, il a tout, quoi. Il est génial. Il s'éclate. Il était dans l'hôtel, lui. Donc, c'est comme ça qu'il avait, entendu le bruit. Et donc, ça fait un énorme buzz. Et donc, dès le lendemain, il y a la queue devant ma chambre. Donc, autant vous dire que les gens de l'hôtel. Il pète un câble, il dit « Oui, vous nous aviez dit que vous faisiez quelques dîners. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ça devient le lieu incontournable, qui est vraiment une proposition alternative aux espèces de grands clubs ou de plages. Toi, c'est vraiment... Et puis, on faisait n'importe quoi, on se baignait dans le jacuzzi, on faisait la teuf. Et puis surtout, ayant toujours dans mon viseur le fait de réussir cette société Sandra & Co, je me dis, c'est une pub de folie pour moi, ça va être du taf, à la rentrée, ça va être génial. Bref, le festival se termine, apothéose, j'ai eu le père de Michael Jackson, j'ai eu vraiment, vraiment énormément de personnalités, de gens connus du cinéma français. Donc, il y a un côté hyper artisanal et je suis fière de ça parce que je me suis donné les moyens de mes ambitions. Mais c'est vrai que c'était dur, c'était cool. Et l'année d'après, Philippe Souche me dit, viens, on loue un appartement, un truc avec une terrasse. Et je lui dis, banco. L'année qui suit le premier festival de Cannes, je commence à avoir du travail avec ma société. Donc, j'arrête avec le Pink Paradise. Et je commence à avoir des clients, je commence à avoir des gens qui me demandent de m'occuper de leur soirée et tout. Donc, c'est bon pour le moral, comme disait la compagnie créole, un grand philosophe grec. Je commence à remonter la pente, je me sens en meilleure santé. Je commence à rentrer des ronds. Je vois un petit filet de lumière. Qui est bon. Mon fils grandit, il est mon moteur, il est le fil d'Ariane de tout. Je le regarde et je lui dis, je te promets, fais-moi confiance, on va s'en sortir, on est une équipe, toi et moi, on est tous les deux. Parce qu'il voyait très peu son père, je lui disais, t'inquiète pas, tu sais, parce que pour lui c'était dur, je travaillais la nuit, donc il me voyait pas beaucoup. Je mettais un point d'honneur à l'emmener à l'école le matin, bon, je vous dis pas dans quel état. de fatigue, lunettes, cheveux sur le sketch de Florence Foresti, voilà, que j'adore d'ailleurs. J'étais, toutes les mamans me regardaient, mais la directrice de l'école, Madame Guylaine, elle était géniale parce que c'est une école catho et tout, et elle avait compris. Je lui ai dit, voilà, moi je suis en reconstruction, je bosse le soir, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, bon, j'ai fait plein d'autres trucs, je suis clean, je suis juste fatiguée en fait. Donc quand j'arrive en retard, s'il vous plaît, donnez-moi un passe-droit, j'arrivais tout le temps en retard. Comme ça, le cheveu est reçu. Elle dit, bon, non, c'est rien, c'est Madame de Mathéis. Bon, allez, on la laisse rentrer. Donc, Dino, avec son cheveu sur la langue, il dit, maman, ça fout la honte. On est tout le temps en retard, vraiment, tu fous la honte. J'ai voulu lui dire, mec, j'ai bossé 12 heures toute la nuit. Donc, le taf reprend un peu. Année 2 à Cannes, j'ai mon appart avec une énorme terrasse au 63 boulevard Croisette. Ça cartonne. Je fais un truc un peu à la cool. J'essaye de renouer avec l'ADN de la teuf. Donc, c'est des soirées rigolotes avec des thèmes, des soirées de films. Je récupère un peu de ma superbe. Je me sens dans mon élément. Et puis, je me dis, putain, c'est quand même marrant la vie. Il y a 15 ans, j'étais serveuse. Et aujourd'hui, j'ai mon endroit. Puis à Détroit. Troisième année du festival, je suis en train de bosser, il y a tout le monde. Aziz Bernstein, Casa de Papel, il y a Tokyo, il y a tout le monde. C'est canon, c'est un succès. Et je vois arriver, mesdames, messieurs, alors il n'y avait plus une touffe, mais une espèce de meubon, un truc. J'en ai encore de la chair de poule. De loin, comme ça et tout, je vois arriver un gars, je dis, putain, mais... C'est quoi cette bombe? Et bon bah, il fait un pas, je le reconnais, c'est Omer. Donc la palpitation, chaud des bras, chaud de partout, sudation intégrale de tout le corps, cheveux brochés, bon ben je redeviens frisé, je suis en descente d'organes. Il s'approche, il me fait salut, je vais salut. Et c'est Jérôme Pulis, qui est aujourd'hui le directeur Europe de Dior, qui l'avait amené, qui lui avait dit, écoute, il y a un endroit où il faut aller, ça s'appelle la suite Sandra & Co. Viens, on va voir, la fille est top, l'endroit est dingue, on s'amuse, on se déguise, on bamboche comme des malades. Et Tomer, il dit, ok, ça s'appelle comment? Il dit, la suite Sandra & Co. C'est Tomer qui va me raconter ça plus tard, il dit, putain, quand il me dit Sandra, je me dis, putain, j'espère que c'est pas chez elle, parce que je suis pas prêt, quoi. En fait, je suis pas prêt pour le choc. Et ben, c'était bien moi. Ils montent les escaliers, ils arrivent, ils font le photocall, et je les vois arriver. Donc, je meurs. Il vient me voir avec son grand sourire. Je pense qu'il a des dents en plus que les gens normaux, hein, parce que quand je pense qu'il fait parler de la famille de Julia Roberts. C'est des gens qui ont des dents supplémentaires, en fait, hein. Je le regarde, je fais salut, salut. Il me dit, t'es belle. Bon, déjà, je meurs. Je dis, t'es pas mal non plus. On parle, on se dit un peu des banalités, tu sais, comme quand t'es un peu gêné. Et puis moi, je suis dinde, parce que dans ces cas-là, quand on est plein de love, on est dinde. D'habitude, on est loquace, on a la bonne vanne, on a le bon truc. Là, je suis un peu nunuche, je suis un peu mal à l'aise, parce que j'ai envie de mourir. J'ai tellement envie qu'il m'attrape, en fait. Je sens que dans ses yeux, c'est réciproque. Et il me dit... Au bout de 20 minutes de conversation, on est assis à table. Plus rien n'existe, hein. C'est-à-dire que je laisse tout, les serveurs, les clients. Je suis assise à table. Et il me dit, tu veux qu'on rentre ensemble? Donc, autant vous dire que oui. Mais je lui pose une question avant de dire oui. Je lui dis, est-ce que t'es célibataire? Et il me dit, non, je suis avec quelqu'un. Donc là, déchirement du cœur, de la plèvre, de tous les endroits déchirables du corps. Et je me dis... Si j'y vais, il va me considérer comme un coup. C'est-à-dire que je vais agir comme si j'étais OK pour être la deuxième. Alors que lui ne le sait pas à ce moment-là, c'est l'amour de ma vie. Donc je ne peux pas lui donner comme signal que, allez, c'est OK. Je prends la deuxième place. Et puis même par rapport à la gonzesse avec qui il était, je trouvais que c'était quand même de la merde. Bon, on me l'a fait, donc j'étais plutôt dans une logique de « viens, fais pas ça ». Et je me dis, voilà, je peux pas lui donner l'impression que wow, ça va, je suis ok, je peux être ta maîtresse, tu peux me baiser comme tu veux. Mais je lui dis, bon, quand même, oui, je te rejoins. si je veux que ce soit sérieux, il faut que je me donne les moyens de récupérer l'homme de ma vie, donc il faut que j'arrête les conneries. Donc toute la nuit, j'appelle, je raccroche, bref, le jour s'est levé et j'y suis pas allée. Et je reçois un message à 9h du mat, il me fait « bon ben voilà, t'as pas changé, toujours imprévisible, très sympa de m'avoir fait poireauter toute la nuit, merci ». Je peux mourir. Je peux mourir et d'un autre côté, je me dis j'ai bien fait parce que on aurait fait un one shot. Et puis je trouve que c'était aussi dégueulasse pour la meuf. Et puis moi, j'aurais pas été fière de moi, je crois. Et puis je crois surtout que j'aurais pas donné de chance à mon couple, la chance d'exister en tant que couple, tu vois, de commencer illégitimement. Et puis se passe cette très, très longue année où il est dans toutes mes pensées. Moi, je suis dans une période, donc je suis divorcée, hein, où j'enchaîne un peu les cums. Puis le jour où j'ai revu Thomas, j'arrête, alors qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi, j'arrête de faire Happn, Tinder, je ne pense qu'à lui. On se parle un peu par SMS pendant cette année, mais on se dit un peu des banalités. Et on se retrouve en 2016 à Cannes, sur ma terrasse Sandra & Co. Donc l'année d'après, je retourne à Cannes, je fais mon truc qui cartonne, et bis repetita, il arrive, il est en costard, il est sublime, et moi ce soir-là, pour une fois, et puis je suis pas mal, je me sens bien, il est trop beau, j'ai l'impression qu'il marche au ralenti, je l'ai voir rentrer, mon Dieu, un truc de ouf. Et il s'approche de moi comme ça avec ses grands yeux noirs. Il se met à 1 cm de mon nez et il me dit « Je suis célibataire. » Hein, je lui dis « Là, ça change tout. Now we are talking. » Parce que je lui avais expliqué l'année précédente pourquoi je n'étais pas venue. Je lui avais dit « Voilà, je ne suis pas venue parce que tu as une meuf. » Et que moi, je n'ai pas l'intention d'être la numéro 2. Quoi. Je suis la plus chiante et je suis numéro 1. Voilà, non, me fais pas chier. Il me dit « Je t'attends à l'hôtel. » Donc encore ce truc. Et ce qui est très mignon dans cette histoire, c'est que pratiquement 16 ans auparavant, il m'a rencontré, j'étais serveuse à Cannes. Lui, il était, on va dire, apprenti comédien. Et 16 ans après, on se retrouve à Cannes. Moi, je suis en place. Et lui, c'est un acteur qui cartonne au même endroit. Donc c'est vraiment, on a fait chacun nos vies, on a fait nos enfants, on a vécu du bon, du moins bon. Et donc je vais le rejoindre et on parle. Et on parle de tout, tous les moments où lui, il a cru que je m'en foutais, toutes les silences, tout ce qui s'est passé, le pourquoi du fameux soir où je suis pas venue avec l'autre qui m'avait prévu un dîner, des fleurs, une mallette, enfin bref. Je lui dis pendant ses explications qu'il ne m'a jamais quitté. Il a toujours été... toujours été avec moi, toujours pensé à lui. Je savais que c'était lui. Et lui, pareil. Et lui, il me dit pareil. Il m'explique que quand on s'est quitté, pendant un an, il a fait abstinence de sexe. Donc, une espèce de truc de dingue. Et donc, évidemment, on se tombe dans les bras. Et je crois que c'est le plus doux baiser que j'ai jamais reçu, parce qu'il était tellement chargé de tout, de toutes ces années d'attente et de tout ce bonheur d'être enfin... Je me sentais enfin complète, en fait. Et c'est tombé à un moment où, professionnellement, j'avais remonté la pente. Et je ne sais pas si certaines des auditrices ou auditeurs ont ressenti ça, mais où j'avais fait une croix sur l'amour. C'est-à-dire que je me disais, bon, c'est pas grave, j'ai plus envie de souffrir. Donc, pour plus souffrir, ben, je me jette pas dans la gueule du loup. Donc, j'étais complètement résignée. J'imaginais pas 2 secondes qu'à l'âge que j'avais, j'allais redevenir une amoureuse. De la même façon que la vie peut être une sacrée salope, elle peut de temps en temps nous faire des cadeaux extraordinaires. Et moi, pour arriver à Tomer, comme ça, je revis toutes les années de merde que j'ai vécues pour y arriver, sans problème, parce que c'est un chemin. Et donc voilà, ça a donné du sens à plein de choses, ça m'a soulagée et je me suis sentie complète. Donc on s'est mis ensemble tout de suite, c'était donc au mois de mai. J'avais un appart, il avait un appart, on a décidé de prendre un appart à deux, parce qu'on gagnait bien notre vie tous les deux. Donc on déménage et on fait se rencontrer nos enfants, nos trois merveilleux enfants, donc Dino, et lui il en a deux, Liv et Lévin, qui sont des merveilles. Et c'est des enfants qu'on m'a donné tout fait. Donc c'est pas mal, les familles recomposées, parce que tout à coup vous avez deux nouvelles personnes dans votre vie qui deviennent essentielles, que vous ne connaissiez pas il y a 10 ans. Donc j'ai tout à coup hérité de deux enfants. On s'est appelé le club des 5. On décide de partir en vacances à Jericoara, au Brésil. C'est chambé. Ouais, tous les deux. Sans les gosses. Et on est sur une dune de sable parce qu'à Jericoacoara, t'as un coucher de soleil de malade. Et il y a cette immense dune de sable où tous les hippies, les gens ultra cool, se rejoignent pour assister à ce spectacle en fait, que la nature nous offre. J'ai une photo de ce moment, on a fait un selfie. Je suis dans ses bras, il est derrière moi, on est assis. Il me dit, je sais que je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose. Mais ça sera la dernière fois que je te la pose. J'ai dit, de quoi tu parles? Et il me dit, est-ce que tu veux m'épouser? Donc, moi, à ce moment-là, je pète un câble, en fait. Parce que c'est ouf, c'est le symbole de porter le nom de l'homme que tu aimes depuis si longtemps. Et je me dis, putain, la chance. Donc, j'ai 43 ans. Et il me dit, est-ce que tu veux devenir Madame Sisley? Il me dit, parce qu'il n'y a jamais eu de Madame Sisley. Il ne s'est jamais marié, lui. Et il me dit, s'il y en a une qui doit porter mon nom, c'est toi. Donc, j'ai dit oui. Je me le suis fait tatouer, d'ailleurs. Attends. J'ai dit oui. On a fait cette cérémonie qui est folle, parce que tu te maries et tes enfants voient ça. Et se marier vieux, en fait. Ce qui est génial, c'est que les gens qui sont dans la salle, c'est souvent des gens qui ont traversé avec toi ces périodes très noires, très dark. Et il y avait une émotion folle, parce que je me souviens de mes amies Gaëlle, Anne-Sophie, toutes les filles de ma vie, qui m'ont vue vraiment, vraiment, vraiment pendant 4-5 années au plus bas, tout à coup renaître et reconstruire quelque chose. Donc c'est une belle morale, en fait, parce que ça veut dire que c'est jamais fini. Et donc on s'est mariés, c'était fou. C'était vraiment, on a fait un tout petit mariage, on était 50, que les bonnes personnes. Je me souviens que ce jour-là, je n'arrêtais pas de tenir sa main. En fait, j'avais du mal à me dire, mais est-ce que tout ça est bien vrai? Et au moment où on se rencontre, Tomer travaille moins. Il est moins dans le cinéma, il a refusé pas mal de projets, il a fait quelques mauvais choix, je pense. Il était très malheureux dans sa vie. Donc ça aide pas, tu sais, dans ton taf, t'es souvent foireux quand dans ta vie t'es pas bien. Et en fait, à partir du moment où on s'est mis ensemble, on a vraiment eu l'un sur l'autre un effet ultra bénéfique. C'est-à-dire que t'as des personnes qui se mettent ensemble et l'association est toxique, comme c'était le cas pour mon histoire d'avant. Et là, tout à coup, il y a une espèce de truc où je veux l'épater, il veut m'épater, on a envie que l'un et l'autre soient fiers de l'autre. On devient des moteurs l'un pour l'autre. Cette famille, alors avec les difficultés que peuvent avoir les familles recomposées, mais c'est surtout cette putain de boule d'amour, en fait. Ce truc où tu dis, putain, mais ça y est, je suis à ma place. Je suis bien, je suis posée, quoi. Moi, ma boîte marchait bien, mais j'avais pas cette sensation de plénitude de te dire, putain, j'ai une épaule, quoi. J'ai quelqu'un qui m'écoute. Et puis, il a des qualités extraordinaires. C'est quelqu'un qui est honnête. Moi, je connaissais pas ça dans les couples. Il a 1000 qualités. C'est quelqu'un qui m'a redonné énormément confiance en moi en tant que femme à un âge où on est plutôt sur la phase descendante, tu vois, physiquement, même si on reste jolie. Mais tu vois, t'as des petits trucs que t'avais pas avant et qui te chiffonnent. Lui m'a redonné confiance en moi. J'ai moi aussi fait en sorte de lui redonner confiance en lui, parce qu'il avait un peu oublié qui il était. Et cette association vertueuse a fait que sa carrière a redécollé, grâce évidemment à son immense talent. Et le mec parle 4 langues, est beau comme un dieu, fait ses cascades. Et je lui disais, mais si toi tu ne tournes pas, explique-moi qui tourne, je comprends pas. Il a repris un peu confiance en lui, il a recommencé à accepter des projets qui ont cartonné. Et on a l'un et l'autre... exploser dans nos tafs, tout simplement parce qu'on était heureux, en fait. Et que ce long chemin de pratiquement 20 années pour se retrouver nous a permis d'atteindre... c'est mon but. Moi, je sais que la dernière personne que je verrai quand je vais fermer mes yeux, ça sera lui. Et j'en suis sûre. Vraiment. C'est un amour à la fois mature, parce qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans, ça fait 5 ans qu'on s'est remis ensemble. On a les caractéristiques des amours d'ado, c'est-à-dire quand on se rejoint, on a les papillons dans le ventre. Ouais, encore, on s'engueule tout le temps, on se réconcilie tout le temps. On a mis au point des règles qui marchent vachement bien. Je vous donne un tips. On s'est promis de ne jamais se coucher fâché. Tant qu'on n'est pas réconcilié, on n'a pas le droit de dormir. Donc ça, c'est hyper important. C'est un des trucs qui fait que ça allège le quotidien, tout simplement. On a une espèce de joie géante d'être tous les 5, d'être enfin réunis. Ça prouve quand même bien une chose. Alors, ça fait un peu philosophie de comptoir, mais on s'en branle. Ceux qui doivent être ensemble finissent ensemble, quoi qu'il arrive. Quel que soit le chemin que tu prennes, si ça doit être ton mec, ça sera ton mec. Aujourd'hui, je suis consciente de mon bonheur. Chaque petite chose, je me dis, meuf, souviens-toi. Quand t'avais plus rien, quand t'étais malade, quand t'étais seule, quand moi je me levais le matin et que je me disais, putain, ok, ce matin j'achète un paquet de clopes ou du lait et des céréales pour Dino. J'en étais là, hein. C'est un amour adulte, ultra conscient de la chance qu'on a d'être ensemble et du bonheur qu'on a d'être ensemble. Mais c'est aussi un amour d'enfance parce que on se fait plein de trucs, on se met des post-it d'amour dans la maison. Donc tu vois, il y a un truc hyper léger qui est extraordinaire, en fait. Alors, on a deux caractères complètement opposés. Moi, je suis un boucan. Je déteste le silence. J'ai toujours un truc à dire qui n'a pas forcément d'intérêt. Et lui, c'est vraiment un homme qui parle quand il a quelque chose d'un... C'est un taiseux. C'est quelqu'un qui se perd très vite dans des études, dans des bouquins. Et en fait, cette différence fait que c'est une super richesse pour nos gosses qui voient vraiment deux exemples diamétralement opposés, vous voyez. On a réussi cette fratrie, c'est-à-dire qu'ils s'aiment comme des frères et sœurs. Dino a 13 ans, Liv a 12 ans et Lévin a 9 ans. Et de temps en temps, quand on est sur ce canapé, là où je suis, on les voit, tu vois passer, courir, jouer. Et il me dit, putain, on a fait ça tous les deux, quoi. On en est là tous les deux et on s'embrasse. Et c'est vrai que c'est un truc qui te porte. Et aujourd'hui, mon trésor, mon précieux trésor, c'est ma famille et lui. Donc, c'est une histoire un peu bizarre, très inhabituelle. On était ensemble, voilà, il y a 16 ans. Et puis, on s'est retrouvés, on s'est mariés, on a fait une famille. Thank you. Bah, je pense que quand on parle à autant de gens, la première chose, c'est d'être honnête. Et pas leur raconter que ouhou, ma vie c'est des paillettes, c'est des robes. Non, on a des chemins chaotiques et je pense que en parler, c'est aussi montrer que on peut s'en sortir. Que pour s'en sortir, il faut s'en donner les moyens. Ça c'est sûr. Et parfois on n'a pas la force. J'espère que plein de gens écouteront cette histoire et j'espère surtout que toutes les filles seules, malades ou qui ont des problèmes d'addiction, qu'elles n'hésitent pas à se soigner, c'est dur, mais putain, ça vous enlève un gros sac à dos de pierre, en tout cas, quand il n'y a plus ça dans la vie.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.